Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau de Ça se dispute, même le samedi, avec nos invités ce soir en direct, face à face. Rachel Kahn, bonsoir.
Bonsoir.
Ravi de vous accueillir. En face de vous, Alexandre Devecchio, bonsoir.
Bonsoir.
Soyez le bienvenu. Et nos thématiques, pour démarrer, on y va direct dans cette émission, on n'hésite pas, on ne perd pas de temps. Première thématique est le règlement de compte à la fête de l'UMA. On sait que le torchon brûle entre Fabien Roussel et Jean-Luc Mélenchon. Les déclarations du patron du Parti communiste qui exhorte les Français à envahir les préfectures, les stations-service, les grandes surfaces pour protester contre l'inflation, la hausse des prix, ont mis de l'huile sur le feu. Il estime que ça va finir par exploser. Et voilà ce que lui a répondu Jean-Luc Mélenchon, dénonçant l'initiative violente. Puis ce que rétorque ensuite Fabien Roussel sur la scène de la fête de l'UMA aujourd'hui. Écoutez, regardez.
Je ne suis pas d'accord pour qu'un chef, quel qu'il soit, appelle à des actions d'un tel niveau de violence sans maîtriser ce qu'il fait. Je ne l'ai jamais fait. J'ai appelé à des insurrections citoyennes. J'ai appelé à des marches. J'ai appelé à voter, j'ai appelé à s'unir, j'ai appelé à la constituante, à la révolution citoyenne. Vous ne m'avez jamais entendu appeler à autre chose. Et le jour où vous m'entendrez appeler à autre chose, alors oui, vous pourrez avoir peur parce que c'est qu'on se prépare à le faire.
Il faudrait que je m'excuse d'appeler à des mobilisations devant les préfectures. Mais enfin, il y a aujourd'hui... Comment leur faire comprendre ? Il y a aujourd'hui... un tremblement de terre social dans notre pays. Un tremblement de terre social car des gens croulent sous le poids des factures d'électricité, de l'essence, du caddie. Ils sont écrasés par ces prix qui augmentent. Oui, il y a un tremblement de terre social et nous faisons le choix d'être à leur côté, de porter secours et de les mobiliser pour réparer ces injustices.
Alexandre Devecchio, Fabien Roussel fait un appel à l'insurrection quand même. Oui, il fait un peu de Mélenchon également. C'était ce qui dérange l'intéressé.
Mélenchon s'énerve parce qu'on lui a un peu piqué son texte, en quelque sorte, parce qu'il est quand même gonflé, un peu hypocrite quand il appelle à l'insurrection. Alors il rajoute le mot citoyen, mais il y a toujours beaucoup d'ambiguïté chez Jean-Luc Mélenchon. Et Jean-Luc Mélenchon, c'est le bruit et la fureur. Donc qu'il se fasse passer là, tout d'un coup, pour un bon social-démocrate, ça fait doucement rigoler. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est que ça traduit quand même, je crois, un clivage idéologique à gauche. En réalité, on voit bien que Fabien Roussel joue la carte de la gauche sociale. Il appelle à l'insurrection, mais il le fait sur des questions de pouvoir d'achat, de vie chère, que Jean-Luc Mélenchon est beaucoup plus sur un discours depuis quelques années sociétal. Il dénonce l'islamophobie, il dénonce le sexisme, etc. En cela, il y a un vrai, je dirais, affrontement idéologique entre les deux. Le problème, je dirais, pour Fabien Roussel, c'est que l'électorat qu'il vise, l'électorat populaire, est déjà très très largement passé chez Marine Le Pen, et je ne suis pas sûr qu'il puisse le récupérer, même en réactivant finalement un discours communiste à l'ancienne, d'autant plus qu'il se refuse, pour le coup, à aborder la question identitaire, les questions d'immigration, les questions de sécurité qui intéressent aussi les classes populaires. Mais voilà, entre les deux, je préfère tout de même Fabien Roussel, qui s'inscrit dans un cadre républicain, qui là appelle à l'insurrection, mais qui est sur un combat social que je peux entendre, que Jean-Luc Mélenchon, qui vraiment, quand il flirte, je dirais, avec le communautarisme et l'islamisme dans les banlieues, à mon avis, est beaucoup plus dangereux que Fabien Roussel. D'ailleurs, il finit par quelque chose d'assez menaçant. Il nous dit « le jour où moi j'appellerai à la violence, va le faire ».
Oui, on va voir ce qu'on va voir.
On va voir ce qu'on va voir.
Tout de même, vous n'êtes pas choqué, Rachel Kahn, par les propos de Fabien Roussel? Pas ceux-là, ceux qu'il a prononcés avant et qui ont mis de l'huile sur le feu. Envahir les préfectures, envahir les stations-service, envahir les grandes surfaces. Ça ressemble presque à un appel aux émeutiers des semaines passées.
Certes, mais je m'interrogeais sur l'endroit où il s'exprime. La fête de l'humanité. Pour moi, de toute façon, cette année, 2023, c'est plutôt la défaite de l'humanité. L'humanité, c'est un mot que j'aime, et compte tenu des personnes qui sont dans les différentes tables rondes et ceux qui sont aussi sur scène sur la culture, franchement, on doit s'interroger sur ce qu'est l'humanité et ce qu'on doit défendre aujourd'hui en termes d'humanité. C'est mon premier point. Ensuite, effectivement, c'est vrai qu'on est étonné de ces propos de Fabien Roussel, qui sont effectivement, notamment par rapport aux préfectures, d'habitude, il y avait plus l'habitude de protéger la République, les institutions. Mais on voit bien là, effectivement, qu'il veut reprendre le lead à gauche et qu'il concurrence en réalité ce Mélenchon qui, pour moi, incarne un véritable naufrage. C'est-à-dire que compte tenu de son parcours, on a d'un côté un ancien ministre de l'éducation professionnelle. Ils ont 20 ans d'écart. Donc c'est quand même une génération qui les sépare. L'un est sur l'islamisme, le racialisme, sur un espèce de clientélisme, au fond. L'autre a toujours défendu les valeurs républicaines, la culture, l'art, dans, finalement, le patrimoine aussi communiste de cette défense-là. Et là, on sent qu'à la rentrée, il a voulu faire un gros coup, se démarquer de Mélenchon, et notamment de la NUPES, pour avoir ce genre de propos. C'est vrai que je suis un peu choquée, parce que effectivement, je pensais qu'il était beaucoup plus sage, qu'il avait une ligne extrêmement forte, mais sans appeler à cette violence. Mais là, dans les deux extraits que vous avez proposés, c'est un petit peu finalement la faucille qui se fout du marteau.
Oui,
en fait, c'est un peu ubuesque d'entendre Mélenchon s'offusquer.
Alors, le canal officiel et le canal historique,
voilà, exactement,
ça, de la communication.
Exactement. Benjamin Constant, philosophie des modernes, philosophie des anciens.
Oui, c'est la bataille des trotskistes et des staliniens, effectivement, rejouée. Après, moi, je suis presque indulgent avec Fabien Roussel, je vais vous dire, parce que là, j'ai entendu son discours. Quand il dit « j'appelle à envahir les préfectures », là, il a parlé de mobilisation, donc on suppose qu'il parlait de manifestation.
Il dit aussi « ça va péter à un moment donné, Alexandre Devecchio. Bon. Ça va péter à un moment donné », dit-il. Si
oui,
on ne fait rien, si on ne bouge pas, ça va péter.
Oui, mais ça, c'est un constat qu'on peut partager. Je suis désolé,
de
prendre moi, le journaliste du Figaro, de prendre la défense de Fabien Roussel, mais enfin,
non,
je n'aime pas le débat politique quand il est aseptisé. Je n'aime pas le clientélisme de Jean-Luc Mélenchon, mais j'aime bien les gens qui parlent vrai. Il y a toujours eu des images, des métaphores dans la politique, et ça fait partie, si vous voulez, de la politique. Donc là, il appelle à des mobilisations pour un leader du Parti communiste. Si vous voulez, il n'y a rien d'étonnant. Donc il faut arrêter aussi de s'indigner toutes les deux minutes pour pas grand-chose. Maintenant, oui, c'est la faucille contre le marteau. C'est très, 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 très marrant parce qu'on voit les deux images. Lequel est le plus violent des deux? Jean-Luc Mélenchon fait quand même plus peur, je trouve.
Oui.
avec aussi plus de maîtrise, puisque on voit bien que Fabien Roussel joue un peu un rôle que Jean-Luc Mélenchon. Et finalement, à l'aise, je ne sais plus, il disait que Macron ressemblait à Pinochet. Je ne suis pas un admirateur d'Emmanuel Macron, mais je trouve que, pour le coup, Jean-Luc Mélenchon a un petit côté dictateur sud-américain.
Sont-ils très différents, Fabien Roussel et Jean-Luc Mélenchon? Deux hommes très différents, sur le fond et sur la forme
sur la
aussi.
Forme. Hein. Sur la forme, déjà, on sent quand même un Jean-Luc Mélenchon très aigri. Depuis 2017, hein, il a basculé depuis sa défaite, en réalité, qu'il n'arrive pas à accepter. Il a complètement basculé dans ce clientélisme, dans un appel toujours au chaos, à diviser, à fracturer. On voit les élus qu'il a fait rentrer à l'Assemblée nationale qui ne donnent pas un spectacle pour la démocratie, franchement, assez triste spectacle. Et puis on a un Fabien Roussel qui s'est fait remarquer, lui, en 2022, qui a pris des positions très fermes sur la République, des positions sur l'humanisme, l'universalisme, la laïcité, qui est en défense, en fait, de nos principes et de nos valeurs. Et puis sur la forme, qui a toujours cet humour-là, même sur la prise de parole, il garde comme malgré tout cet humour. Après, je crois que cette différence pointe surtout l'échec de la NUPES. Et moi, j'en veux énormément à certains élus qui ont finalement dévoyé la démocratie et la croyance dans nos institutions, parce qu'en réalité, ils ont joué un jeu très dangereux, celui d'être là pour un plat de lentilles, ce qui, nous, en fait, ne nous permet plus de croire en nos représentants.
Et en jouant ce rôle, en ayant le sens de la formule, pour les deux, d'ailleurs, est-ce qu'ils ne se ridiculisent pas?
Les deux?
L'un et l'autre, oui, absolument. Bah, parce que Fabien Roussel s'amuse sur scène en tremblant presque d'effroi. Est-ce que je vais devoir m'excuser? Vous voyez, en faisant le mauvais acteur. Ce que fait Jean-Luc Mélenchon, qui est un tribun, en effet, mais qui joue souvent un rôle et parfois cela sonne faux.
Fabien Roussel, il a toujours été là pour des rendez-vous importants avec la République et la démocratie. Donc là, je pense que c'est sa rentrée. Voyons ce que ça va donner. Mais moi, j'ai comme vous, hein, j'ai plus confiance en Fabien Roussel, notamment que
Très bien. Alors, vous êtes en train d'enterrer Jean-Luc Mélenchon.
J'ai plus confiance, mais ça ne veut pas dire en réalité que je partage les choix politiques ni de l'un, je dirais, ni de l'autre. Rachel Kahn a raison. Je pense qu'il y a aussi beaucoup de ressentiment de la part de Jean-Luc Mélenchon depuis qu'il a perdu en 2017, mais aussi en 2022. Il échoue à la qualification au second tour pour 400 000 voix. Souvenez-vous, je crois que Fabien Roussel fait 4-5%. Donc, en fait, il lui prend... il fait beaucoup mieux qu'Anne Hidalgo, d'ailleurs, qui est à 1,7%. Il lui prend les voix qui lui manquent pour la qualification au second tour. Et moi, je pense... Je fais partie de ceux qui pensent que Jean-Luc Mélenchon sera très proche ou sera au second tour le prochain coup et que très peu iront le défier finalement à gauche parce que la NUPES, effectivement, il y a beaucoup de désaccords idéologiques, mais c'est un syndicat d'élus, ils ont intérêt à le suivre. Et sans doute le seul qui va être candidat contre lui malgré tout, c'est Fabien Roussel. Donc je pense que c'est aussi ça qui rend fou Jean-Luc Mélenchon parce que là, on voit qu'il est hystérique. Après, je disais que je ne suis pas forcément un partisan de... Je nuancerais sur la défense de la République public de Fabien Roussel. Il me paraît effectivement moins inquiétant que Jean-Luc Mélenchon, mais par exemple, ses positions sur l'immigration ne semblent pas forcément cohérentes, c'est-à-dire qu'à partir d'un moment où on ne maîtrise pas les flux, on risque d'aggraver le communautarisme, et là, il nous dit qu'il ne faut pas de communautarisme, mais il faut plus d'immigration, donc je trouve que c'est problématique. Et j'ai le souvenir aussi de la résolution qu'il avait votée sur Israël, c'était d'ailleurs à l'initiative du parti communiste en disant que Israël était un état d'apartheid, je trouve que là il rendait pas forcément service non plus à la République et il faisait lui-même du communautarisme. Donc Fabien Roussel n'est pas un ange si vous voulez non plus, mais par rapport à Mélenchon, je trouve qu'il va beaucoup moins loin quand même dans le clientélisme et le communautarisme et je trouve qu'il a le mérite à gauche par rapport à d'autres, par exemple à Anne Hidalgo, au PS ou aux écolos, à essayer de s'emparer de la question sociale. Et j'ai beau être un homme de droite, je pense que c'est une question importante.
Autre thématique à vous proposer dans Ça se dispute, le politologue belge François Jemaine, auteur pour le GIEC, qui, vous le savez, a pour mission d'examiner des données scientifiques, techniques, a accusé sur la chaîne LCI Marion Maréchal d'avoir sauté, je le cite, dans le premier avion pour faire sa pin-up à Lampedusa, puisque vous savez que la vice-présidente s'est rendue sur l'île italienne pour observer et estimer que l'Italie avait été abandonnée par l'Europe. La vice-présidente de Reconquête donc, était à Lampedusa, on l'a entendu notamment sur l'antenne de CNews. Est-ce que ça vous choque déjà qu'on puisse interpeller une responsable politique, quelle qu'elle soit, Rachel Kahn, et qu'on la traite de pin-up, qu'on la réduise finalement à son rôle de femme et à sa plastique?
C'est pas ça qui me choque. C'est juste que ça révèle le moment dans lequel nous sommes, d'un point de vue politique, depuis quelques années déjà. Puis ça s'est accéléré aussi avec la guerre en Ukraine. Twitter, les réseaux sociaux, les médias, comment en fait on arrive à faire circuler ce genre de propos, un peu de vulgarité finalement, entre vulgarisation et vulgarité en fait. C'est vrai que là, elle va tout de suite à Lampedusa. C'est un coup de com'.
C'est de la récupération politique ?
Non, ce n'est pas de la récupération politique. Elle a lancé sa campagne aux européennes. Lampedusa, c'est un territoire où l'enjeu est profondément européen. C'est une politique aguerrie. Elle va à Lampedusa. Elle a des images qui sont chocs. C'est-à-dire qu'on la voit, elle, femme blonde, avec les migrants, etc. Et pour le parti, justement, qui nourrit cette peur des migrants, finalement, elle endosse les habits de la femme courageuse, politique, qui prend les choses en main, qui va sur le terrain. Au lieu de parler de Lampedusa dans son salon feutré, elle va sur place et elle est en campagne. Donc, réaction de ce membre du GIEC.
Mais qui essaie de faire un bon mot pour la déstabiliser ou pour estimer que son rôle ou sa place.
Et alors là, effectivement, je n'accepte pas ce genre de propos à l'égard d'une femme, quelle qu'elle soit, parce que pin-up, j'ai été obligée de regarder la définition dans le dictionnaire. Dans le dictionnaire. Non, mais c'est une photo d'une jolie fille qu'on accroche au mur. Une jolie.
Ce sont les GI américains, notamment,
exactement,
qui collaient ces photos.
Exactement. Le sex appeal, etc. Ouais. Et effectivement, aujourd'hui, en 2023, alors qu'on se bat pour l'égalité, notamment en politique et ailleurs, ce genre de propos qui vise à dénigrer me déplaît profondément. Mais vous savez, c'est de la même manière, moi, si je me retrouvais en face d'Hitler, eh ben, je tiendrais la main à Rokhaya Diallo. C'est-à-dire que cette solidarité-là, elle doit être présente, quelles que soient les idées politiques. Et par ailleurs, il aurait mieux fait d'avoir un argumentaire profond, précis, sur l'idéologie de Marion Maréchal, par exemple, et non pas la traiter de pin-up pour mettre fin à la discussion.
Bon, mais c'était une manière de la stigmatiser, c'est de la ridiculiser aussi,
oui,
peut-être.
C'était...
Vous n'êtes pas tant gêné que ça, Alexandre Devecchio, par le terme de pin-up? C'est pas une insulte pour vous?
Elle répond d'ailleurs, je pense, assez justement, Marion Maréchal. Elle parle de termes méprisants.
Oui, c'est ça.
Je pense que c'est assez condescendant, c'est assez con, disons-le. Maintenant, moi, c'est vrai que je suis pas dans le débat public. J'en ai un peu marre qu'on mette du patriarcat à toutes les sauces, quoi. Le patriarcat, ça existe en Iran, par exemple, ou en Arabie Saoudite. J'ai pas l'impression que la société occidentale soit patriarcale. Ses propos sont peut-être un peu méprisants, peut-être un peu misogynes, mais enfin, Marion Maréchal se fait traiter de fasciste régulièrement. Je pense qu'à tout prendre, elle préfère être traitée de pin-up. Il s'est excusé, je crois. Donc, je dirais, dont acte. Ça montre aussi qu'il a pas beaucoup d'arguments sur le fond. Effectivement, on aurait aimé l'entendre sur la question de l'immigration. Est-ce que Marion Maréchal fait un coup de com'? Je ne sais pas s'il faut se précipiter à Lampedusa. Par contre, je sais que c'est une vraie question politique. Et d'ailleurs, j'aimerais qu'on parle de ça plus que de la question du pseudo-sexisme d'un dirigeant du GIEC là, que je ne connaissais pas. Je trouve que ce n'est pas très intéressant. Ce qui est plus intéressant, c'est qu'est-ce qu'on fait face à cette subversion migratoire, cette submersion migratoire. C'est quand même un enjeu qui va être important pour l'Europe, qui ne concerne pas seulement l'Italie, parce que je pense que la tragédie des Italiens, ce sera aussi la nôtre demain. Ça l'est déjà aujourd'hui. Donc là, il y a une question éminemment politique qu'il va falloir...
On va évoquer dans la deuxième partie de l'émission, effectivement, la crise migratoire, Lampedusa, on y retournera dans quelques instants. Mais je m'attarde avec vous encore un tout petit peu sur cette expression, ce terme de pin-up, et surtout la réaction, les réactions politiques. Parce que parfois, il y a de nombreuses féministes qui, normalement, s'insurgent et prennent la parole pour défendre, pour protester. C'est le cas parfois aussi de Sandrine Rousseau, qui, à la fête de l'UMA, a été interrogée par nos équipes sur ce sujet. Écoutez.
Bonjour Madame Rousseau, j'ai juste une question sur Lampedusa. Il y a Marion Maréchal qui s'est fait traiter de pin-up par un membre du GIEC. Je voulais savoir si vous la souteniez en tant que féministe. Voilà, on l'a traité de pin-up.
Je parle pas de ça. C'est quel média?
C'est CNews.
CNews. CNews, arrêtez d'être d'extrême droite, on vous répondra.
Voilà, on peut s'auto-féliciter, en effet, au-delà du tacle à CNews auquel on commence à être habitué, en effet. Non, mais c'est vrai, si on veut avoir un débat démocratique, autant quand même ne pas fermer la parole et pouvoir s'exprimer, quels que soient les supports. Juste sur, en plus, sa non-réaction. Rachel Kahn, c'est-à-dire qu'on lui pose une question, c'est le parangon du féminisme. Dès qu'il y a un poil de quoi que ce soit, elle monte au créneau. Non, mais elle monte au créneau et finalement, là, aucun mot. Parce que c'est Marion Maréchal.
Vous croyez que Sandrine Rousseau est féministe?
Ah bah écoutez, elle se revendique en tout cas comme telle.
Je sais le mal qu'elle fait aux
femmes. Elle se revendique comme telle.
Je sais le mal qu'elle fait aux femmes dans les entreprises, dans le couple, en société, etc. Dès que vous vous bataillez pour certains droits ou certaines choses de la vie quotidienne, on vous dit « Oh, mais arrête de faire ta Sandrine Rousseau ». Je ne sais pas si elle fait avancer justement cette question d'égalité. Je ne sais pas s'il faut la qualifier de féministe. C'est ça, moi, ma question. Mmh. On l'a vu, il y a eu un flottement au moment de l'Afghanistan pour justement être aux côtés de ces femmes, etc. Que finalement, il y avait des talibans qui étaient plus modérés que d'autres, etc. Non, mais c'est-à-dire que c'est insupportable. Moi, je sais que lorsqu'on défend certains principes, et notamment humanistes, et surtout en termes d'égalité, eh bien, quelle que soit l'idéologie des personnes, on est avec elles. Voilà.
Donc elle n'est pas féministe?
Oui, là, je suis assez d'accord avec ce que dit Rachel Kahn. Non, elle fait beaucoup de mal. Elle dresse les hommes et les femmes les uns contre les autres. D'ailleurs, elle dresse à peu près tout le monde les uns contre les autres, puisqu'elle est aussi un peu racialiste. Donc, c'est les Blancs qui détesteraient les Noirs. Et les mâles blancs, effectivement, occidentaux, qui sont coupables de tous les maux. Donc, je pense que non, c'est pas une vraie féministe. C'est une féministe qui, effectivement, s'indigne pas sur les viols de Cologne, par exemple. Qui s'indigne jamais sur les violences faites aux femmes dans les banlieues. Donc effectivement, je rejoins tout à fait Rachel Kahn sur le fait qu'elle fait beaucoup de mal. Maintenant, un mot quand même sur sa petite phrase sur CNews. C'est amusant. Alors, quand vous avez proposé le sujet, je me suis dit, oh mince, Sandrine Rousseau, est-ce qu'on est vraiment obligé de répondre au sectarisme et à la bêtise? Mais c'est quand même intéressant parce qu'elle définit jamais le terme d'extrême droite. Ou plutôt, si, chez Sandrine Rousseau, tout ce qui ne correspond pas à ses délires est d'extrême droite. C'est le Tour de France, c'est le sapin de Noël, c'est le barbecue, c'est l'homme construit, par exemple. En revanche, l'abaya, c'est la liberté de la femme. L'islam est une religion de paix et d'amour, et Rachel Kahn en sait quelque chose. Médine est un très grand philosémite qui aime son prochain. Donc on voit le niveau, si vous voulez, de sophisme de Sandrine Rousseau, et on voit qu'elle a un problème aussi avec la démocratie. Sans doute, peut-être qu'il y a une forme de lâcheté. Justement, elle ne veut pas débattre et elle ne veut pas qu'on débatte des arguments. Donc l'argument extrême droite est pratique parce que ça lui permet de ne pas répondre. Mais je serais prêt à débattre avec Sandrine Rousseau ici. Elle verrait qu'on,
sur le plateau de CNews,
qu'on y respire l'air de la
c'est
liberté.
C'est mal engagé pour l'instant.
La liberté de la démocratie, ça lui ferait peut-être du bien.
Oui, mais c'est quand même assez insupportable, cette politique à la carte, surtout en répondant à des médias qui, eux, se revendiquent de gauche. Et franchement, dans le débat démocratique, Rachel Kahn, c'est très bien. Tout le monde peut s'exprimer, tout le monde peut avoir des opinions. Tant qu'on les défend, qu'on argumente, pourquoi ne pas avoir cette liberté d'expression et de parole ?
Non, mais l'objectif, c'est de vous faire taire.
Ah.
À partir du moment où on vous dit que vous êtes d'extrême droite, on a le droit de vous taper dessus. Voilà, c'est ça l'objectif. C'est très malsain, c'est très malhonnête. C'est une construction très perverse. Ça dévoie aussi la politique, puisqu'on a vu les différents sondages, notamment sur l'abaya, par exemple, les sondages où la majorité des Français dans toutes les régions considèrent que, par exemple, l'école doit être sanctuarisée pour apprendre, etc. À partir du moment où vous avez cette position qui est majoritaire dans le pays, vous êtes d'extrême droite. Donc, en fait, c'est vraiment pour vous rayer de la carte, pour considérer que vous êtes nauséabond, que vous sentez la naphtaline.
C'est une forme d'intégrisme.
Totalement, et de sectarisme.
On marque une pause, on se retrouve dans 16 disputes avec Rachel Kahn et avec Alessandro De Vecchio. D'autres thématiques, on va parler notamment de la crise migratoire que vous évoquiez, Alexandre, tout à l'heure. On fera un petit point sur l'actualité juste après la publicité. À tout de suite. 16 disputes avec Rachel Kahn et Alexandre De Vecchio sur l'antenne de CNews. Dans quelques instants, bien sûr, les débats continuent. Mais d'abord, on fait un point sur l'actualité avec vous, Adrien Spiteri. Bonsoir.
Bonsoir Lionel et bonsoir à tous. Ursula von der Leyen se rendra demain à Lampedusa. La présidente de la Commission européenne a accepté à l'invitation de la première ministre italienne Giorgia Meloni. Sur l'île italienne, plus de 8000 migrants ont débarqué cette semaine entre lundi et mercredi. Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin se rendra lui sur place dans les prochains jours selon l'Elysée. Un mineur de 16 ans a été mis en examen à Corbeil-Essonnes dans la nuit de vendredi à samedi. Il est accusé d'avoir participé au meurtre d'un adolescent de 15 ans décédé mercredi après-midi. Conséquence a priori d'une rixe entre bandes rivales dans la ville. Et puis en Libye, les chances de retrouver de potentiels survivants s'amenuisent de jour en jour après les terribles inondations provoquées par la tempête Daniel. À Derna, dans l'est du pays, près de 20 000 personnes pourraient avoir trouvé la mort selon le maire de la ville. Devant la menace sanitaire, le pays doit enterrer ses morts au plus vite. L'eau stagnante favorise en effet le risque de propagation d'épidémies.
Merci Adrien, on vous retrouve à 22h pour un prochain point sur l'actualité. 16 disputes, autre thématique avec Lampedusa, bien sûr, cette île italienne dont la population a plus que doublé en quelques jours. Plus de 10 000 personnes en provenance d'Afrique du Nord qui ont débarqué depuis lundi. C'est un record absolu pour une crise migratoire sans précédent, peut-être même une crise humanitaire. On en parle dans quelques instants. Les nombreux migrants arrivés à Lampedusa, pour certains, tentent de franchir les frontières, et notamment la frontière franco-italienne. À Vintimille, dernière ville avant la France, beaucoup d'entre eux sont en attente et rêvent de rejoindre notre pays. Reportage de Fabrice Elsner avec le récit de Mickaël Dos Santos.
Depuis plusieurs semaines, Daffy et François errent dans les rues de Vintimille. Arrivés depuis la Tunisie, avec quelques euros en poche, les deux migrants guinéens peinent à se nourrir. Leur objectif, rejoindre la France.
J'arrive pas à m'adapter dans les autres pays à ce qui concerne la langue.
On ne peut pas dire 100% à travailler en France parce que il y a beaucoup de Français qui sont là-bas et ne travaillent même pas. Donc on vient pour tenter nos chances.
Pour traverser la frontière, les deux hommes privilégient les montagnes. Passer en train s'avère beaucoup plus compliqué.
J'ai été arrêté 2 fois par la police française et j'ai été refoulé. Tous ces trains sont contrôlés.
Certains des habitants de Vintimille ne supportent plus la présence de ces migrants, synonyme pour eux d'insécurité.
C'est pas possible de se promener tranquillement.
Ils font des bagarres, ils picolent.
Surtout le soir, la nuit,
au bord de mer.
À l'heure de trouver des solutions, les propositions sont plus ou moins radicales.
Il faut commencer à dire stop. Première chose, vous n'avez pas une maison, vous n'avez pas un travail, vous ne parlez pas la langue.
Il faudrait, en Europe, se les partager les problèmes.
Une solidarité européenne qui tarde à se faire sentir. L'Allemagne a fait savoir ces dernières heures qu'elle n'acceptait plus les migrants venant d'Italie.
Et c'est une situation que l'on décrit sur le continent. C'est encore pire, évidemment, sur l'île de Lampedusa. Avant d'évoquer d'ailleurs ce cas pratique et d'aller à Lampedusa, Rachel Kahn, cette situation, c'est-à-dire la crainte des Italiens, les Français sont dans le même état d'esprit. Ces migrants qui tentent de passer la frontière en espérant chercher un Eldorado. C'est l'échec de qui ? De l'Europe ? De la France, de l'Italie, de la politique de Giorgia Meloni qui a fait sa campagne pour arriver au pouvoir en Italie sur justement ce phénomène d'immigration, de migration.
De toute façon, il y a beaucoup de raisons. On est dans une crise à plusieurs thématiques. C'est-à-dire qu'on est dans un monde interdépendant déjà. Et ensuite, on a des crises qui sont économiques, sociales, environnementales. Moi, je connais bien, évidemment, l'Afrique subsaharienne, puisque je suis binationale, et que la crise climatique, notamment, avec des températures qui sont, on dirait que c'est l'enfer sur Terre, en fait, chez mes tantes, où les récoltes sont très pauvres, etc. Donc forcément, tout ça... ça participe. Et pour répondre à votre question, c'est vrai que depuis des années, l'Europe, les États, ont joué à un jeu. Alors, en fait, au lieu de traiter du fond du problème, il y a eu beaucoup d'émotions mises sur le devant, en fait, à l'ordre du jour. Et puis aussi beaucoup de jeux politiques qui ont été mis à l'ordre du jour, comme si, finalement, il y avait les méchants d'un côté qui voulaient fermer les frontières et les gentils de l'autre qui voulait ouvrir les frontières. Sauf que la question de l'immigration, elle ne se pose pas en ces termes. Et puis aussi, il ne faudrait pas considérer que les migrants, c'est une forme de troupeau où on n'aurait que des tueurs, que des voleurs, que des gens qui font du mal, etc. Parce qu'il y a véritablement, parmi ces migrants, des gens qui veulent s'en sortir, qui veulent épouser la langue. On a eu là, dans le reportage, un monsieur qui parlait de la langue. Et quand on a en fait à l'esprit l'histoire de la Pologne ou de la Hongrie, on sait très bien que leurs langues ont été construites de manière à ce que l'immigration soit limitée aussi. Voilà.
Oui, alors ça veut dire que l'Afrique de l'Ouest, notamment l'Afrique francophone,
la francophonie,
aimerait regagner la France. Sauf qu'Alessandro De Vecchio, on ne peut pas accueillir tout le monde. Et ça, ce n'est pas on ne vient pas de l'inventer, on ne vient pas de le découvrir, que ce soit en France ou ailleurs. Les Allemands, d'ailleurs, refusent maintenant d'accueillir des migrants parce qu'ils en ont trop accueilli, trop reçu.
Oui, effectivement, il n'y a pas les gentils et les bons, les bons et les méchants d'un côté. Et de l'autre, en réalité, il y a un problème concret, c'est est-ce que nous avons les moyens de les accueillir. Et je crois que ce n'est pas le cas. On le voit tous les jours.
Moi, je pense
qu'effectivement, il y a des gens qui veulent s'en sortir, tout simplement. Je ne leur jette pas la pierre. Mais on voit bien qu'aujourd'hui, on n'est plus en mesure de les intégrer. Ils sont sous une tente à la chapelle. Ils vont prendre du crack et effectivement, ça va se transformer en insécurité. Peut-être pas tous, mais une bonne partie. Donc à partir du moment où on ne peut plus les insérer économiquement et encore moins les transformer en français culturellement, parce qu'il y a ça aussi, on a du mal aujourd'hui à intégrer la troisième génération. Donc vous voyez les difficultés dans lesquelles on est. Donc tant qu'on n'aura pas réussi cette intégration-là, je pense qu'il n'est pas sain pour la société d'accueillir d'autres personnes. Maintenant, la question, c'est comment on fait pour stopper cette vague. Déjà, il faut sortir effectivement des discours pseudo-moraux du chantage à l'émotion. Parce qu'en réalité, ceux qui les accueillent, les associations qui les font venir, qui travaillent avec les passeurs, sont pas plus, n'ont pas un plus grand cœur que nous, surtout pour les accueillir dans des très mauvaises conditions. Je rappelle que ces associations vivent aussi de cela. Donc le chantage à l'émotion, je crois que ça n'aide personne. Il faut faire preuve de raison là-dedans. Et donc il va falloir trouver des solutions collectives. Et je pense qu'on en a quelques-unes. En réalité, il faut aussi envoyer un signal clair. Que nous n'avons plus les moyens d'accueillir parce que dans ces pays-là, ils pensent que la France et l'Europe, c'est l'Eldorado et c'est pas le cas. C'est une désillusion quand ils arrivent. Et c'est pour ça aussi qu'il y a cette violence. Donc il faut envoyer ce message clair de tous les dirigeants européens et ensuite se donner les moyens de contrôler. Moi, je pense par exemple sur la question des réfugiés. pense que c'est l'honneur de l'Europe d'accueillir des réfugiés. Mais on voit bien que ce système est totalement dévoyé, qu'à partir du moment où on pose le pied sur le sol européen, on y reste. 80% des demandeurs d'asile déboutés restent sur le sol européen. Donc là, on a un véritable problème. Moi, je crois qu'il faut au maximum gérer les flux en amont. En réalité, il faut que les demandes d'asile soient faites dans les ambassades, dans les pays d'où les migrants viennent. Et donc, s'ils sont acceptés, ils sont acceptés. Mais s'ils sont refusés, ils sont refusés. Mais il faut arrêter de gérer le problème une fois que les gens sont là. Et bon, alors c'est vrai qu'il y a des gens qui continueront à chercher à passer. Mais par exemple, en Grèce, si on compare la Grèce et le cas de Lampedusa, il y avait le même problème à Lesbos. On a fait un centre de rétention géant. Et alors c'est vrai que ça fait des images qui sont assez déplaisantes, mais je pense que c'est un mal nécessaire, si vous voulez, et que ça dissuade. On voit bien que ça a dissuadé toute une partie des migrants de venir. Et je pense que c'est mieux pour eux de ne pas se noyer au milieu de la mer Méditerranée ou de venir dans des pays où ils seront mal accueillis. Il y a un problème d'intégration, je l'ai dit au début, de violence, d'ensauvagement, qui n'est pas seulement lié à l'immigration, mais qui est en partie liée à l'immigration. Et il y a le problème du basculement démographique. Il y a une note de l'Institut Montaigne, qui est un institut libéral qui ne peut pas être taxé d'extrême droite, qui montre, note de Bruno Tertrais, qu'à l'horizon 2070, les Français dits de souche, j'aime pas cette expression, seront sans doute en minorité par rapport aux immigrés. Les immigrés viennent avec un bagage culturel, c'est pas des pions, c'est pas des pages blanches, c'est des êtres humains qui ont une culture, des mœurs, qui sont porteurs d'une civilisation. À partir du moment où il y a un tel basculement démographique, ça veut dire que c'est une transformation profonde de notre civilisation. Est-ce qu'on souhaite ça? Il faudrait quand même poser la question aux Français, aux peuples européens. Je ne crois pas qu'ils ont envie que leur civilisation change à ce point-là.
On a posé la question aux Français. On en parle d'ailleurs dans quelques instants, puisque cet après-midi, on a interrogé notamment des téléspectateurs de CNews. Mais sur le cas de cette île de Lampedusa, que fait-on de ces milliers de migrants qui sont massés? Est-ce qu'on va transformer l'île italienne en centre de rétention? Vous la connaissez bien, cette île, vous, Rachel Kahn, puisque vous avez tourné dans un film, un téléfilm italien qui a été diffusé sur la RAI, qui s'appelle Lampedusa. Et donc le climat, je ne parle pas de la météo, mais le contexte de cette île, quand on se retrouve, quand on débarque après avoir fait des heures de bateau sur des coques de noix ou des bateaux de fortune.
Non, mais déjà, c'est vrai que certes, il ne faut pas du tout parler. Enfin, si on veut gérer cette situation, il faut laisser l'émotionnel de côté. Mais si je peux vous parler de ce moment à Lampedusa, où j'ai passé quand même trois mois... ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, ce sont des personnes qui arrivent de Libye, où elles ont été maltraitées. Justement, il faudrait bien que la France insoumise et autres nous parlent de ce qui peut se passer en Libye, notamment par rapport aux Noirs, hein, qui sont traités comme des esclaves, qui sont torturés, qui se reçoivent des balles. Bon, il y a toute la situation en fait, des passeurs qui sont vraiment en fait, un des cœurs du problème, qui sont vraiment des commerçants de la pauvreté, de la désespérance. Et à Lampedusa, c'est véritablement tout quitter de son pays, quitte à mourir dans l'eau. Moi-même, j'ai failli mourir dans l'eau. Et c'est vrai que depuis Lampedusa...
En jouant, vous jouez le rôle d'une migrante.
Oui. Ben là, on me voit...
On vous a vu sur l'affiche qu'on a diffusée.
Je joue le rôle d'une migrante, où je perds mon enfant dans la traversée, où je le retrouve justement à Lampedusa, où il y a la Croix-Rouge qui est là pour m'accueillir, etc. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que il y avait des migrants qui tournaient avec nous sur ce
des vrais migrants.
Migrants. Et en fait, c'est des batailles pour l'eau, des batailles pour dormir, des batailles pour entre les migrants, pour se laver, des batailles pour protéger ses enfants. Donc, on est dans une désespérance humaine, on est véritablement, et nous qui sommes de culture judéo-chrétienne quand même, on ne peut pas se dire de cette culture-là et d'un autre côté dire que ça ne nous touche pas. Oui, ça nous touche. La Méditerranée est un cimetière aujourd'hui, on le sait, depuis le début de l'année, c'est 2000 personnes qui sont mortes en Méditerranée. Mais ça, en fait, il faut réussir à le mettre de côté pour effectivement, je suis d'accord avec Alexandre, de traiter les problèmes à la base. Aujourd'hui, l'Afrique, avec cette situation politique, le terrorisme islamique en Afrique, etc., les situations de fragilité au sein des gouvernements, des coups d'État, etc., participent aussi au fait que les gens veulent quitter leur pays. Donc je pense qu'en fait, il faut traiter le problème à plusieurs niveaux, à la fois dans un dialogue avec les États africains, et effectivement, au niveau de l'Europe et avec les pays qui sont touchés, comme l'Italie, parce que Giorgia Meloni promettait zéro migrant. Là, elle se cogne contre le réel.
C'est un échec déjà pour elle, un échec personnel, au-delà du contexte européen. Elle considère aussi peut-être que l'Europe l'a laissé tomber. Alors là, les Gérald Darmanin, la patronne de l'Union européenne aussi, se rend sur place. Mais est-ce qu'il n'est pas déjà trop tard pour l'Italie? C'est un échec cuisant pour Giorgia Meloni.
En réalité, c'est compliqué pour Giorgia Meloni parce qu'elle a voulu se démarquer de Salvini, qui, lui, souvenez-vous, refusait les bateaux. Finalement, elle a fait preuve de plus d'humanité, en quelque sorte, même si je disais tout à l'heure qu'il ne fallait pas voir ça selon des critères moraux. Mais elle a quand même, par exemple, elle a voulu revenir au droit de la mer, faire en sorte que, certes, on récupère les gens, on ne les laisse pas mourir en mer, mais on les ramène dans leur pays ou dans le pays sûr le plus proche. Donc elle a tenté des choses quand même pour le dévoiement de l'humanitaire. Seulement, ça prend du temps. Elle le fait dans la voie légale et effectivement, elle le fait dans le cadre européen. Alors que, par exemple, Salvini avait décidé de s'affranchir du cadre européen. Et donc là, l'Europe a une responsabilité. Je pense que Ursula von der Leyen est déconnectée aujourd'hui de la réalité. Et quand je disais, pour dissuader effectivement les migrants, il faudrait que l'Europe parle d'une même voix. Or là, c'est pas le cas. On a des politiques assez dures, assez efficaces, par exemple au Danemark, qui fonctionnent très bien. Mais le Danemark, comme ils sont pas rentrés directement dans le traité de Maastricht, ils ont gardé des pans de souveraineté. Et puis, on a d'autres pays européens qui ont un autre discours, et surtout une Commission européenne qui est extrêmement ambiguë sur ces questions-là, et Frontex effectivement qui ramène les gens sur le continent. Donc ça va pas, c'est pas cohérent. Et je crois qu'en démocratie, il faut se tenir aussi compte de la vie des peuples. Et aujourd'hui, s'il y avait un référendum sur cette question dans tous les pays d'Europe, je crois qu'on connaît à peu près le résultat. Les peuples européens, qui ne sont pas racistes, contrairement à ce qu'on dit, qui sont justement de culture chrétienne, qui ont beaucoup accueillis, disent stop, notre société aujourd'hui est en danger, on veut bien accueillir mais on veut pas nous mettre nous-mêmes en danger. Donc il faut tenir compte de ceux qui veulent et commencer à mettre en place des politiques beaucoup plus coercitives, hélas.
Les Français veulent-ils vraiment accueillir? Sont-ils prêts en tout cas aujourd'hui?
Non, ils veulent pas accueillir encore des migrants.
Exactement. C'est la question que nous avons posée aux téléspectateurs dans 180 minutes info cet après-midi, aux téléspectateurs de CNews. La France, terre d'asile, terre d'accueil, doit-elle accueillir des migrants, ceux dont on parle à Lampedusa? Voici quelques extraits de réponses.
Non, la France ne doit pas prendre de nouveaux migrants. Les Français cotisent de plus en plus et ont de moins en moins. Ils ne s'en sortent plus. La France ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Donc non, 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 plus de nouveaux migrants.
Bonjour, je ne pense qu'il ne faut pas accepter tous ces migrants, car la France est en difficulté. Nous devrions plutôt aider nos Français.
La France ne doit pas recevoir de migrants. Ne doit rien du tout à personne d'ailleurs. Quand on propose de l'aide à certains pays, ils n'en veulent pas. C'est sûr qu'il y a des migrants qui méritent. Quelques migrants méritent d'être en France, mais la France se mérite. Et on n'a pas le temps de sélectionner qui va rester en France.
Et sur l'ensemble des témoignages, Rachel Kahn, c'est assez unanime, c'est-à-dire que 90% des personnes que nous avons entendues sont contre l'arrivée de migrants en France aujourd'hui. C'est quand même très significatif, alors qu'il y a, comme vous le décriviez tout à l'heure, une situation d'urgence humanitaire pour des êtres humains qui sont effectivement massés aujourd'hui à Lampedusa.
Oui, mais je pense que, comme le disait Alexandre tout à l'heure, c'est pas une question de racisme, c'est pas une question d'inhumanité. Tout le monde a cette humanité, tout le monde est sensible à cette misère-là, je crois. Mais en revanche, nous vivons, on le sent très bien, le climat social en France est quand même extrêmement fragile. On a les questions de pouvoir... Tout le monde essaie de s'en sortir, en fait. Et effectivement, faire croire que la France, c'est l'Eldorado, c'est le rêve français où il y a de l'argent qui tombe des arbres, etc. Enfin, ça, c'est un mensonge. Je pense que de la part des dirigeants, notamment africains, il y a aussi quelque chose de l'ordre de l'éducation à la population qui devrait être mise en place, mais très fortement, et ne pas laisser ce fantasme de l'Europe perdurer, parce qu'effectivement, on retrouve cette misère humaine dans les rues françaises. Et ça,
oui, mais Rachel Kahn, que fait-on de ces gens, de ces 10 000 personnes qui sont à Lampedusa? Très compliqué aujourd'hui de les renvoyer dans leur pays. Ils sont sur le sol italien. Très compliqué de les envoyer dans des ports sûrs. A-t-on vraiment la certitude? D'ailleurs, ce sont peut-être ces ports sûrs ou ces États dits sûrs qui les ont laissés partir vers l'Italie, puisqu'il y a eu un exode massif cette semaine. Donc, on en fait quoi de ces gens-là?
Oui, voilà, c'est la question qui est posée à Gérald Darmanin, qui va aller sur place à Lampedusa. De toute façon, je suis assez d'accord sur la question européenne. C'est-à-dire que ce sujet doit être traité. Ces personnes, il va falloir une décision peut-être d'urgence pour ces 10 000 personnes, mais une décision qui soit effectivement unanime européenne. Et puis d'avoir une véritable politique européenne. La politique d'ailleurs européenne, on l'attend depuis un bon moment, mais surtout l'ordre public européen qui puisse gérer cette situation-là. Mais je ne sais pas du tout, je ne peux pas répondre.
Mais évidemment, mais non, mais j'ai le sentiment que Gérald Darmanin n'a pas la réponse non plus. Lui, il est constaté sur place, mais c'est surtout la France et les frontières françaises qui l'intéressent.
Oui, et on sait d'ailleurs, on a beaucoup parlé de l'Italie, en réalité les migrants ne restent pas en Italie, ils vont beaucoup en France, notamment parce que notre système social est plus généreux. Là aussi, si on veut gérer le problème de fond, effectivement, ce cas-là, les 7000 qui sont arrivés, ils vont être dispatchés, ils vont sans doute arriver sur le continent européen, mais si à terme on veut gérer le problème, il faudra aussi s'interroger sur notre système social. Est-ce qu'il doit être généreux tout de suite pour les nouveaux venus, par exemple? C'est une question qu'on est en droit de se poser, même si beaucoup viennent pour survivre, mais malgré tout, dans un pays qui a des difficultés, c'est une question qui se pose, et c'est sans doute pas hasard s'ils viennent plutôt en France qu'en Italie, par exemple. Ensuite, il y a aussi, ça a été dit, le problème doit être géré en amont, c'est ce que je disais, avec des hotspots notamment, mais sans doute aussi il faudra se poser la question du développement de l'Afrique. Si l'Afrique effectivement ne se développe pas, beaucoup de gens voudront partir. C'est compliqué parce que faire du co-développement, c'est exposer à l'accusation de néocolonialisme. En plus, la manière dont c'est fait aujourd'hui, ça permet à certains d'avoir juste le niveau de vie suffisant finalement pour migrer. Donc il va falloir réfléchir là, pour le coup, moi je pense à une forme de plan Marshall pour l'Afrique. Et enfin, et là, moi j'ai dit ce que j'avais à dire sur l'immigration, je pense qu'il faut arrêter, mais on a une responsabilité, il faut bien le reconnaître. On voyait les images de la Libye tout à l'heure, il y a eu des choix en matière de politique étrangère qui ont été désastreux. Envahir la Libye a été une catastrophe stratégique. Donc l'ingérence militaire, en tout cas, sans doute va-t-il falloir mettre en place des politiques de co-développement, mais l'ingérence militaire dans des pays qui étaient à peu près stables, c'est une folie avec laquelle il faut rompre définitivement.
Et une situation pour l'instant insoluble apparemment pour ceux qui sont massés à Lampedusa. Merci de nous avoir accompagnés, Alessandre Devecchio. Merci Rachel Kahn. Merci. C'était Ça se dispute et on continuera à se disputer évidemment comme chaque semaine le vendredi et le samedi à partir de 21h. Mais en général, ça se dispute bien, avec bienveillance, avec élégance, mais le débat est ouvert. Dans quelques instants, d'autres débats avec Olivier Benkemoun. C'est Soir Info pour vous informer sur l'antenne de CNews. À tout de suite.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.